Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour à tous, bienvenue dans Moralité. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes plus grandes contradictions. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez sur Instagram, je vous propose régulièrement de voter pour le thème du prochain épisode que je vais réaliser sur ce podcast. Alors à chaque fois, je mets 3 ou 4 thèmes que j'ai en tête et il y a certaines d'entre vous qui m'envoient un message en me disant « Ah mais moi j'aimerais vraiment bien que tous les thèmes soient abordés ». Alors globalement, tous les thèmes vont finir par être abordés, mais l'idée c'est un peu de vous laisser un peu maître du podcast et de vous permettre de choisir lequel vous souhaitez entendre en premier. Ce thème d'épisode sur les contradictions a été plébiscité par vos soins et si vous souhaitez participer au prochain sondage, je vous invite à me suivre donc sur Instagram. Mon compte c'est le blog de Neroli et voilà, régulièrement je vous propose des petits sondages pour savoir de quel sujet vous souhaitez que l'on discute pour les futurs épisodes. Alors, les contradictions, l'un des fonds de commerce les plus importants et les moins connus de certains créateurs de contenu, je vous en avais parlé dans un épisode dédié à l'influence. Laissez-moi vérifier, mais cet épisode s'intitulait « Tu connais Nabila ?» et c'était l'épisode numéro 19, où donc j'expliquais, et je pense que tout le monde ne le sait pas, que le fait de se contredire peut être un vrai fonds de commerce pour certaines personnes, parce qu'en fait, quelqu'un qui va dire tout et son contraire en l'espace d'une semaine va créer, et c'est tout à fait volontaire de sa part, un engouement dingue, un engagement fou parce que vous allez regarder le contenu en question, que ça soit une story, un post, vous allez le repartager à une copine en disant mais c'est pas possible, lundi elle disait ça, vendredi elle a dit l'inverse. Donc comme je vous l'expliquais dans cet épisode, la contradiction c'est un vrai fond de commerce. Alors moi j'en ai pas fait mon fond de commerce parce que j'ai pas du tout envie d'attirer la haine, je trouve que c'est absolument dingue de se créer de tels problèmes pour gagner un petit peu d'audience au détriment d'une santé mentale que personnellement je souhaite garder la plus saine possible. En revanche, je suis une personne humaine comme nous tous et je véhicule quand même quelques petites contradictions que je souhaitais développer avec vous aujourd'hui. J'ai mis un peu de temps à construire cet épisode parce qu'en fait j'avais pas toutes les idées qui me venaient d'un coup, donc j'ai pris des notes en fait au fur et à mesure des mois et voilà, en discutant aussi avec mon entourage, j'ai trouvé quelques petites contradictions qui me caractérisent. On va commencer par la première qui est vraiment l'une des plus flagrantes dans ma vie. Je suis passionnée par l'émission Miss France depuis l'enfance alors que je suis féministe. Comment puis-je me revendiquer féministe en regardant chaque année et en annulant parfois certaines soirées qui sont prévues pour ne pas louper cette émission, émission dans laquelle des femmes défilent en maillot de bain, je crois même à 2 reprises maintenant, émission lors de laquelle les femmes sont globalement jugées sur leur physique et certainement pas par ce qui se passe dans la tête. Enfin, vous avez qu'à regarder la façon dont le programme se déroule. Globalement, on fait un plus gros focus sur l'enveloppe physique que sur ce qu'il se passe dans le cerveau de ces jeunes femmes. Je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai une telle fascination pour ce programme télé. Enfin, parce qu'en fait, c'est un truc que je regarde depuis l'enfance, donc il y a un côté un peu Madeleine de Proust et qui fait que je suis très attachée à ce programme télé, malgré les valeurs absolument délirantes qu'il véhicule. Il n'y a qu'à jeter un seul coup d'œil à l'émission Miss France pour voir qu'il y a absolument zéro diversité. On est sur des corps standardisés qui reflètent des standards de beauté absolument navrants. Mais avec les années, j'ai l'impression que je deviens de plus en plus critique vis-à-vis de ce programme. Alors je le regarde, je l'assume parce que j'en parle assez, mais je le regarde avec un œil très critique. Mais là, dernièrement, donc la Miss France qui a gagné donc pour le règne 2024, qui a donc été élue en fin 2023, parce que l'émission est diffusée toujours courant décembre, et bah écoutez, c'est la première année que j'ai regardé cette émission avec un œil critique, mais avec une pointe d'agacement non dissimulée, parce que je crois que j'en ai assez parlé sur Instagram ce soir-là. La personne qui a été élue Miss France, je ne me souviens même pas de son nom, je n'ai absolument rien contre cette femme, mais elle avait une... Enfin, elle a toujours, j'imagine, une coiffure courte, avec une coupe... à la garçonne, je déteste cette expression, mais vous voyez où je veux en venir. Coupe qu'elle n'a cessé de mentionner pendant ses différentes prises de parole, comme si le fait d'avoir les cheveux courts était quelque chose de complètement incroyable, qui allait la démarquer des autres, alors que nous, ce qu'on aurait quand même envie de voir, c'est globalement des femmes qui portent autre chose qu'une taille 34 ou une taille 36. Bref, une jeune femme qui, objectivement, n'a pas réellement brillé par ce qui est sorti de sa bouche, mais qui a davantage brillé par son apparence corporelle, parce que c'est vrai qu'elle est absolument ravissante. Et ça a quand même réveillé une petite pointe d'agacement que je n'avais pas ressentie depuis quelques années. Alors je pense pas que je vais pour autant arrêter de regarder cette émission, parce que comme je vous disais, il y a un truc un peu émotionnel, parce que ça vient de l'enfance, parce que je regarde ça depuis des années et que c'est un peu, voilà, une sorte de tradition que j'assume complètement, mais j'ai l'impression que plus les années passent et plus je regarde ce programme télé avec un œil critique et avec un agacement de plus en plus prégnant, donc à voir comment je consommerai ce programme dans les années à venir. Deuxième contradiction qui me caractérise, je déteste les films d'horreur, je déteste les attractions à sensations dans les parcs d'attractions, mais pour autant, j'adore les faits divers. Alors ce qui n'a du coup absolument aucun sens, puisque j'ai donc peur de choses fictives, hein, les films d'horreur, ils sont rarement tirés d'un fait réel. Dans les parcs d'attractions, toutes les attractions à sensations peuvent être réalisées sans aucun risque pour votre santé. Alors il y a toujours un drame chaque année sur certaines fêtes foraines, mais ça reste quand même des choses très très contrôlées, donc normalement je ne suis pas censée avoir peur dans ce genre de choses. Et à la fois, je m'endors quasiment tous les soirs avec « on de la traconte » ou « faites entrer l'accusé » dans mes écouteurs. Alors ça, j'ai pas vraiment d'explication, je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Me faire peur volontairement dans un film, et je crois que ce qui me déplaît principalement dans un film d'horreur, c'est ce qu'on appelle les « screamers ». Donc vraiment, le personnage principal qui se balade, je vous donne l'exemple, hein, qui se balade dans une maison, et d'un coup d'un seul, il y a une fenêtre qui vient d'être cassée par un énorme zombie. Voilà, moi ça c'est des trucs vraiment d'être surprise comme ça. Des pointes de stress où je sens mon cœur qui s'emballe, c'est un truc qui me procure absolument aucune sensation de joie. Je comprends tout à fait qu'on puisse aimer ça, qu'on puisse aimer se faire peur. Bah, je suis bien la preuve vivante puisque je consomme énormément de contenu sur des crimes non élucidés, des faits divers. Mais comment quelque chose de fictif peut m'effrayer au point que je ne souhaite pas le consommer, alors qu'à côté de ça, je vais consommer des contenus réels, hein, puisque tous les trucs de faits divers que je consomme sont des histoires vraies. D'ailleurs, ça me fait parfois froid dans le dos quand je le réalise. Voilà, j'ai pas la réponse, mais c'est comme ça que je fonctionne. Un peu dans le même domaine, je suis fascinée par la psychologie humaine. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je consomme tant de contenus sur les crimes, les faits divers, etc. À ce sujet, vous me posez beaucoup de questions sur les podcasts que je consomme, parce que tout ce qui est crime, fait divers, je le consomme principalement en podcast, assez rarement, enfin plus rarement, sous forme d'émissions à la télévision, de reportages, hormis quelques documentaires sur Netflix qui sont très très bien faits, et puis ensuite quelques livres. Mais pour les podcasts, je vous ai écrit il y a quelques années maintenant, mais c'est un article que j'ai mis à jour sur mon blog, qui doit s'appeler « Faits divers et crimes, mes podcasts préférés » ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien vers cet article dans les notes de cet épisode si vous voulez savoir, voilà, quel podcast je consomme de façon quasiment hebdomadaire. Donc, pour en revenir à ce que je disais, je suis fascinée par la psychologie humaine parce que dans ces histoires de faits divers, moi ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi du passage à l'acte. Pourquoi quelqu'un de complètement lambda soit s'enferme dans des mensonges, typiquement dans l'affaire Jean-Claude Roman ou ce genre de choses. Pourquoi certaines personnes en viennent à commettre des atrocités pareilles. Et voilà, toute cette notion de psychologie humaine m'intéresse énormément, et à la fois, sachez que j'ai détesté mes stages en psychiatrie. Pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas mon parcours professionnel, je suis infirmière, j'ai été diplômée en 2010, donc j'ai fait mes études d'infirmière de 2007 à 2010, et alors bon, le référentiel de formation a un petit peu changé depuis, mais bon, peu importe. En gros, moi, à mon époque, pendant ces études-là, on était tenu de faire deux stages pendant la durée de la formation dans divers secteurs. Donc deux stages de chirurgie, deux stages de médecine, deux stages de pédiatrie, et donc vous le voyez venir, deux stages de psychiatrie. Ces stages, ils étaient imposés, éventuellement pour le deuxième, on pouvait se permettre d'aller voir la responsable des stages, en tout cas, ça se passait comme ça dans mon école, pour orienter vers un secteur bien particulier. Je vous dis n'importe quoi, mais si en première année, vous aviez la sensation d'avoir une révélation et que vous aviez envie de faire votre vie en réanimation, si c'était voilà, une carrière qui vous intéressait, vous pouviez aller rencontrer la responsable des stages, c'était une femme qui était absolument adorable dans mon école, et vous pouviez vous permettre de l'orienter vers un stage qui vous intéressait davantage, un stage parfois plutôt rare et plutôt difficile à obtenir, pour qu'elle comprenne quel était votre projet professionnel et vous emmène voilà, dans un service de réanimation, par exemple. Donc moi, pour le premier stage en psychiatrie, je n'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire. J'avais donc 19 ans tout rond, et j'ai atterri dans un... Je rigole, mais c'est pas drôle du tout. J'ai atterri dans un stage de psychiatrie aiguë pour adultes, qui était un service fermé à clé. Donc on était quand même sur des pathologies qui mettaient en tout cas en danger la sécurité et la santé de chacun des patients, puisque pour les protéger les uns des autres, pour contrôler leur état de santé psychique, voilà, ils étaient pour la plupart enfermés dans leur chambre, avec toutes les mesures qui vont avec. Des chambres d'isolement également, où il n'y a pas de drap, parce que voilà, comme ça il n'y a pas de risque de strangulation, ils mangeaient avec des couverts en plastique, enfin voilà, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais moi c'est un stage qui m'a terrifiée, non pas parce que j'avais tout bêtement peur de ces personnes-là, pas du tout, mais en fait je ne comprenais pas, parce qu'en fait j'étais en première année d'école d'infirmière, que à ce moment-là, je suis en train de me demander, mais je crois que quand j'ai démarré ce stage, on n'avait même pas en fait vraiment commencé à aborder la psychiatrie, les maladies mentales à l'école en fait, pendant les cours magistraux, donc j'ai vraiment découvert la psychiatrie par ce biais-là. Et je suis arrivée dans un, voilà, dans un service sensible, je sais pas comment le qualifier, mais j'ai eu en tout cas très très peur pendant tout ce stage, parce que j'ai vu des personnes en crise, j'ai vu des personnes schizophrènes, il y a eu des notions de contention, ces fameuses chambres d'isolement, avec des risques pour la santé des soignants aussi, enfin bref, c'est un stage qui m'a fait très très peur, et quand le deuxième stage de psychiatrie est arrivé, je suis justement allée voir la responsable des stages, donc là je devais avoir 20-21 ans, ça devait être vers la fin de mes études, et donc je suis allée voir la responsable des stages pour lui demander si je pouvais avoir un truc un tout petit peu plus cool, voilà, qu'elle puisse peut-être me mettre dans un service, alors déjà pas fermé à clé, peut-être pas voilà, avec des psychotiques aigus, et que je sois dans quelque chose de plus tranquille, et elle a répondu à ma demande très gentiment, et figurez-vous que j'ai atterri dans le centre sportif d'un des plus grands hôpitaux psychiatriques de Lyon, parce que c'est là que je faisais mes études à l'époque. Je vous fais pas un dessin, mais globalement, si vous êtes hospitalisé en service de psychiatrie et que vous avez l'opportunité d'accéder au centre sportif, c'est que vous êtes à un stade assez stabilisé de votre pathologie mentale, donc j'étais quand même avec un public voilà, qui avait un traitement stable, il n'y avait plus de notion de crise, c'était des personnes qui pouvaient échanger avec d'autres patients. Je vous fais pas un dessin, mais typiquement dans le cadre d'un sport collectif, bah pour pouvoir, voilà, je vous donne l'exemple du foot par exemple, pour pouvoir récupérer un ballon, faire une passe, voilà, mentalement il faut être dans certaines dispositions, et donc les personnes, les patients qui pouvaient accéder à ce centre sportif, voilà, avaient des pathologies mentales bien plus stabilisées, donc ça m'a donné un nouveau regard sur le domaine de la psychiatrie en général, ça m'a fait beaucoup de bien, et d'ailleurs j'ai vraiment beaucoup plus appris pendant ce stage que pendant le premier, parce que tout simplement j'étais pas drivée par la peur. Sur le coup ça me faisait beaucoup de peine pendant ce premier stage d'avoir eu si peur, d'avoir été autant stressée pendant l'intégralité de ce stage, d'avoir toujours ce trousseau de clés sur moi, etc. J'avais un boîtier qui était fixé à ma blouse sur lequel je pouvais appeler, qui déclenchait une alarme dans le service pour que les gens me viennent en aide si j'étais voilà, en difficulté avec un patient. J'étais globalement jamais laissée seule avec un patient, mais ben, je vous fais pas un dessin à nouveau, mais par manque de moyens, ça s'était quand même présenté plusieurs fois. Et bref, voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais je suis arrivée à la fin de ce deuxième stage en ayant un regard différent sur la psychiatrie en général. Et puis avec le recul, je me dis, ben, ça m'avait fait beaucoup de peine, voilà, d'être passée un peu à côté de ce premier stage. Mais voilà, j'avais 19 ans, je crois qu'on avait à nouveau pas du tout abordé ces histoires de maladies mentales à l'école. Donc c'était tout nouveau. Donc avec le recul, je me dis que c'était normal d'être un peu effrayée, mais j'ai assez vite compris que la psychiatrie, c'était pas fait pour moi. Et en effet, je n'ai jamais, plus jamais exercé dans ce type de service une fois mon diplôme en poche. Contradiction numéro 4, je n'aime pas les chats, mais j'adore mon chat. Alors, moi j'ai grandi avec des chiens. Toute mon enfance, quand je suis née, il y avait déjà un chien dans mon foyer. Et mon deuxième chien, d'ailleurs, est décédé... Alors, il avait 16 ou 17 ans, donc c'était vraiment une mort qui était attendue, mais c'était, voilà, pendant la fin de mes études d'infirmière. Quand on a emménagé ensemble avec Quentin, moi, j'ai tout de suite eu très, très envie d'avoir un chien, parce qu'en fait, voilà, j'ai toujours grandi avec des chiens. Mais je sais quel engagement c'est, parce que, voilà, j'ai toujours grandi avec des chiens. Je sais que ça demande du temps, que ça demande de la place, que ça demande de l'argent aussi. Je pense que j'avais pas cet argent-là à l'époque, et donc, j'allais dire, on s'est rabattu vers un chat. C'était pas du tout un choix par dépit, mais Quentin, donc, qui est devenu mon mari après, lui avait grandi avec des chats, et on est parti du principe, voilà, d'adopter un petit chat, parce qu'un chat c'est plus indépendant, parce que on peut partir une ou deux journées, ça reste complètement autonome, ça peut complètement vivre en appartement. Bref, on a adopté donc Nala en 2010, mais voilà, moi j'aimais pas trop les chats, tout simplement parce que je ne connaissais pas les chats, je n'ai jamais grandi avec des chats.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ah, j'ai toujours eu un petit peu peur de cet animal parce que, contrairement aux chiens, je trouve que les réactions sont un petit peu plus compliquées à comprendre. Alors après, une fois qu'on a pigé la psychologie du chat, je crois qu'il n'y a rien de bien difficile, mais quand on ne connaît pas cet animal, il peut y avoir des réactions voilà, agressives. En fait, il ne faut pas du tout se comporter avec un chat comme on se comporte avec un chien. Bref, j'ai adopté un chat alors que je n'aimais pas cet animal, mais je vous garantis que j'adore mon chat. Nala vient de fêter ses 14 ans, je n'en reviens pas de tout le chemin qu'on a pu traverser ensemble, et vraiment, j'adore mon chat, mais... quand je me rends chez des amis, chez des gens qui ont un chat, c'est pas un animal vers lequel je vais spontanément, parce que, en plus d'un animal à l'autre, moi je connais le mien, je le connais par cœur, mais je trouve que, voilà, d'un animal à l'autre, les réactions sont pas toujours les mêmes, et voilà, c'est pas un animal avec lequel je suis forcément très à l'aise, mais bien heureusement, j'adore mon chat. Cinquième contradiction, j'aime pas trop me regarder, j'aime pas trop m'écouter, et pourtant je suis blogueuse, créatrice de contenu, influenceuse. Appelez bien ça comme vous voulez. Je pense que quand vous regardez des contenus, notamment sur YouTube, vous voyez ces personnes que j'appelle les engluées du retour écran. Ces personnes qui ont les yeux rivés sur le retour écran et qui s'admirent pendant l'intégralité du tournage de la vidéo. C'est un truc que je trouve absolument fascinant. Alors moi, je suis pas complexée, mais pour autant, je suis pas extrêmement à l'aise avec mon apparence. Et surtout, je suis pas fan de mon enveloppe corporelle ou de ce que je dégage. Enfin voilà, j'aime beaucoup ma propre compagnie, mais pour autant, je voue pas un culte... à ma personnalité, donc on pourrait se dire que diffuser de façon bi-hebdomadaire depuis... ça fait combien de temps que je fais tout ça? Ça fait depuis 2012, donc ça fait 12 ans, voilà, que je propose des contenus sur Instagram, sur YouTube, sur mon blog, que je me prends en photo, que je me prends en vidéo, en format audio, comme vous êtes en train de l'écouter actuellement. Et pour autant, je suis pas quelqu'un d'extrêmement à l'aise avec son image, donc ça peut être un peu contradictoire. Parfois, il y a des personnes qui me posent cette question-là, qui me disent « Ah, mais du coup, t'arrives à accepter ta voix ?» Parce que, bah voilà, typiquement, la voix que vous entendez là, dans ce podcast, bah moi, bien sûr, je vous apprends rien, c'est pas la voix que j'entends dans ma tête. On me demande « Est-ce que t'arrives à accepter de te voir à l'image ?» Alors, bien sûr, hein, comme tout le monde, déjà j'entends mes tics de langage, et je crois que ça c'est vraiment le truc qui m'agace le plus. J'ai quand même, comme tout le monde, des habitudes, des expressions, des façons de parler qui reviennent. Parfois j'entends un accent aussi, alors je suis assez persuadée parfois que j'ai pas d'accent, mais en Haute-Savoie on a quand même un accent, je trouve, qui est assez reconnaissable, et si vous m'écoutez depuis Paris, depuis le nord de la France, je pense que vous voyez tout à fait où je veux en venir. Certains diront que ça ressemble un petit peu à l'accent suisse, et je pense que c'est pas complètement faux non plus. Donc voilà, toutes ces choses, je les vois, tous ces petits tics de langage, je les entends. Je suis pas forcément méga à l'aise de les entendre, mais je fais avec. Mais pour autant, je voue pas non plus un culte à mon apparence corporelle, à mon apparence physique ou à ma personnalité, et on n'est pas obligé, selon moi, de se montrer sur les réseaux sociaux et d'être absolument fan de la personne qu'on représente. Donc, c'est l'une de mes contradictions, mais je suis très à l'aise avec tout ça. Et dans un domaine un petit peu similaire, sur mes notes, j'ai écrit « Je suis un poil introverti alors que je tiens un blog qui est lu par 400 000 personnes par an ». Alors voilà, je parle du blog, mais sur YouTube, j'ai 60 et quelques mille abonnés, sur Instagram, un petit peu pareil. Alors, je sais pas si je suis complètement introverti, mais je suis pas extraverti. Voilà, je suis pas quelqu'un d'extrêmement exubérant, j'ai pas un style vestimentaire reconnaissable, je suis pas... J'allais dire, je suis pas à l'aise en public. Si, parce que commencer par ce début de semaine là, au moment où j'enregistre cet épisode, j'ai tenu un discours devant plusieurs dizaines, je sais même pas s'ils étaient pas un peu plus de 100 personnes, pendant une remise de prix à Paris. Alors ça m'a demandé un effort, parce que c'est pas un exercice avec lequel je suis hyper à l'aise. Pour autant, je suis pas d'un naturel complètement introverti, ni réservé, ni d'une timidité maladive, donc il y a rien qui me bloque dans cet exercice-là, mais c'est pas quelque chose que j'adore faire. Le truc en fait, c'est que quand vous réalisez comme moi des contenus, que ça soit voilà podcast, vidéo YouTube, contenu sur Instagram, etc., vous le faites sans jamais imaginer, et je crois que c'est tant mieux comme ça, que des dizaines de milliers de personnes vont consommer les contenus en question par la suite. Pareil, quand je fais un petit peu mes réels TikTok humoristiques où je me déguise à moitié, je n'imagine pas une seule seconde que la maîtresse de ma fille va regarder ses contenus, et je vous garantis que cette situation est tirée de faits réels. Et puis de temps en temps, dans une discussion hyper formelle, il y a quelqu'un, l'exemple n'est pas vrai, mais pour vous donner une idée, genre mon banquier qui va me dire « j'adore ce que vous faites sur Instagram », et là vraiment j'ai mes deux mondes qui se rencontrent et je me dis « waouh, d'accord, donc vraiment cette personne qui est en train de gérer mes finances voit mes conneries sur Instagram ». Alors, j'assume tout ce que je fais, hein, sinon je le ferais pas, je me montre pas dénudée, je me montre pas en larmes, donc je contrôle quand même l'image que je véhicule sur les réseaux sociaux en général, mais c'est vrai que quand je poste tout ça, je réalise que je peux être vue par n'importe qui, mais je crois que je ne réalise pas la portée de ce que je publie. Parce que des réels, des TikTok qui ont fait 1 million de vues, j'en ai une bonne dizaine maintenant, donc... Ces contenus, ils ont été vus par beaucoup plus de personnes que ce que j'ai pu imaginer lorsque j'ai créé les contenus en question. Donc voilà, c'est une de mes contradictions, mais je crois que c'est un truc ça qui habite pas mal de personnes qui exercent mon métier, où quand on crée ces contenus-là, on s'imagine pas, à moins de s'appeler Caroline Receveur qui doit avoir des millions de personnes qui la suivent, je crois qu'on n'imagine pas qu'on puisse être suivi et vu par autant de personnes. Après, dans mes notes, j'ai écrit, bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est sympa quand même. Je n'ai aucun sens de l'orientation, mais j'ai écrit un guide touristique sur la ville dans laquelle j'ai grandi, qui est donc la ville d'Annecy. Quand je vous dis que j'ai aucun sens de l'orientation, c'est que je me perds dans tous les parkings dans lesquels je me gare, y compris les parkings dans lesquels je me gare régulièrement. Hein, je parle pas du parking de la ville dans laquelle je me rends en vacances et dans laquelle je vais plus jamais retourner par la suite. Non, je vous parle vraiment des parkings typiquement de la ville d'Annecy. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous voyez très régulièrement que je prends en photo tout simplement le numéro de ma place parce que me repérer dans le parking, c'est une capacité que je n'ai pas. Et j'ai surtout pas du tout envie de me faire confiance et de faire 25 000 tours parce que je sais jamais à quel étage je me suis garée. Donc en prenant en photo la place, je vais pas forcément la retrouver facilement. Enfin, c'est pas le fait d'avoir le numéro de la place qui va m'aider à la retrouver, mais je me dis, si vraiment je suis bloquée, je repars à l'accueil du parking et il y a peut-être quelqu'un qui va me tenir par la main et qui va me ramener vers ma voiture. Je me perds dans des trucs complètement stupides aussi. Enfin, moi, ma plus grande angoisse, c'est que quand je suis typiquement dans le centre-ville d'Annecy. Donc Annecy, je suis arrivée ici, j'avais 1 an et demi, j'ai bientôt 36 ans, donc autant vous dire que je suis quand même censée connaître la ville comme ma poche, surtout que j'ai toujours grandi dans le centre-ville d'Annecy, et que quelqu'un me demande « Vous savez où ça se trouve, tel magasin, telle rue ?» Et que, alors je vois complètement où ça se trouve, je vois complètement où se trouve la rue, mais que vous savez, vous devez vous tourner puis dire à la personne « Bah c'est dans telle ou telle direction », puis vous montrer avec votre main. Et moi j'ai un peu de mal, voilà, à me repérer dans l'espace. J'ai des gros soucis d'oreille interne, je sais pas si ça vient de là, mais pour vous donner un exemple, quand je me lave les cheveux sous la douche, quand j'ai les yeux fermés, il faut que je tienne le mur avec ma main parce que j'ai l'impression que je vais tomber. Donc ça, c'est connu, c'est dépisté depuis très longtemps. J'ai de très très gros soucis d'oreille interne. Ces soucis m'empêchent notamment, comme je vous disais, de faire des attractions à sensation dans les parcs d'attractions parce que tout simplement j'ai la nausée au premier virage et que bon, personne n'a envie de s'infliger ça. J'ai déjà vomi sur un pédalo, j'ai déjà failli vomir dans un avion qui n'avait même pas encore décollé. Voilà, pour vous donner un peu une idée... du propos, sachant que, donc ça c'est dépisté, hein, j'ai vu un kiné, quand j'étais petite j'ai fait de la kiné vestibulaire pour essayer de m'en sortir, je n'ai jamais trouvé de solution, donc je vis avec, mais voilà, je me suis toujours dit que peut-être mon sens de l'orientation déplorable venait de là, ou peut-être que je me cherche des excuses. Et donc j'ai écrit un guide touristique sur la ville d'Annecy. Alors du coup personne dans mon entourage ne m'a dit « Oh là là, mais t'as écrit un guide touristique alors que tu sais pas te repérer dans l'espace », mais typiquement c'est quelque chose que mon père m'a fait remarquer parce que lui il sait que je suis capable de me paumer dans les galeries Lafayette d'Annecy, hein, donc lui ça l'a bien fait sourire quand je lui ai dit que j'avais écrit un guide, il m'a dit « Bah c'est quand même marrant ». Toi qui es incapable de trouver le nord, le sud, quand tu te balades en ville. Et ma dernière contradiction, celle-là elle est quand même assez marquée. Je pense que s'il y a des personnes de mon entourage qui écoutent ce podcast, ils vont dire, tout à fait vrai. Je suis quelqu'un de très simple, vraiment. Je suis quelqu'un de pas compliqué, j'ai pas besoin d'avoir plein de choses farfelues autour de moi. Mais au fond de moi, j'ai un très très gros fond un peu précieux, un peu prout-prout. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer ça. Moi, par exemple, je fais partie de ces gens qui ont du mal à partir en vacances pour moins de confort que ce que je peux avoir chez moi. Et j'ai beaucoup de confort chez moi parce qu'on est propriétaire de notre appart, qu'on a fait des beaux travaux, donc on a un super appart, on est très très bien là où on est. Donc, typiquement, partir en vacances en camping, dormir dans une tente, c'est pas trop mon truc. Alors, les gens font bien ce qu'ils veulent. Je pense que c'est une expérience fabuleuse et que si vous avez envie de le faire, il faut le faire. Mais moi, me forcer à faire ça, j'ai pas trop envie. Donc, je préfère partir moins loin, moins longtemps, mais dans de meilleures conditions que partir au Costa Rica avec un sac à dos et de faire un road trip sans pouvoir prendre une douche pendant une semaine. Voilà, ça, c'est un avis complètement personnel. J'aime bien avoir mon petit confort. Et quand je parle de confort, c'est pas des draps en soie ou manger avec des couverts en argent, mais... Voilà, moi j'aime bien m'asseoir pour manger et pas manger un truc au milieu d'une rue. Alors sauf, exception typiquement, je suis partie à New York il y a un an, j'étais toute seule, donc bien sûr je ne me suis pas attablée à un restaurant tous les midis et là manger un sandwich dans la rue m'allait très très bien, donc il y a plein d'exceptions à ce que je vous dis. Mais globalement, voilà, j'ai un petit fond un peu précieux où j'aime bien mon petit confort au quotidien, comme je vous l'avais dit dans un précédent épisode de podcast. Je fais clairement partie de ces personnes qui, dans les 10 ans qui vont venir, vont partir en vacances avec leur propre oreiller. Voilà, ça c'est un truc qui risque complètement de m'arriver. Et je voulais vous raconter une anecdote à nouveau, qui est très représentative de ce que je viens de vous raconter, et j'ai un souvenir extrêmement précis de cette anecdote, alors que je l'ai vécue à l'âge de 3 ou 4 ans, ce qui est pour moi un peu le référentiel de la première étape de sa vie où on commence à avoir des souvenirs assez marquants. Alors on n'en a pas des tonnes, mais je trouve que quand on a vécu quelque chose de bien marquant à cette étape-là de notre vie, on s'en souvient assez bien. Donc à 3 ou 4 ans, j'étais scolarisée en première année maternelle, je suis persuadée que c'était en petite section. Je vois très bien la salle, la classe, donc je sais exactement que c'était en petite section. La maîtresse, qui était une maîtresse absolument adorable, Madame Fricker, si vous passez par là, nous a sorti des pâtes de poulet. Alors j'espère que c'est un truc qui en 2024 n'existe plus, mais tenez bien, je vais vous raconter le détail. Des pâtes de poulet qu'elle était allée récupérer chez un volailler, chez un boucher, enfin je sais pas où elle était allée récupérer ça. Pâtes de poulet qu'on devait tremper dans de la peinture pour réaliser des dessins. Donc on trempait la pâte dans la peinture et puis après on posait ça sur des feuilles et ça faisait des petites formes. Voilà, je vous fais pas un dessin, mais vous voyez très bien à quoi correspond une pâte de poulet. Je crois qu'il y a 3 doigts dessus. Et voilà, ça nous permettait de faire de la peinture comme avec des tampons, quoi. Voilà, comme si les pâtes de poulet étaient des tampons. Donc elle rentre en classe et elle nous explique que ce sont des pâtes de poulet. Et alors, à la fois, je me dis, elle aurait peut-être pas dû expliquer ce que c'était, puis à la fois, autant pas mentir à un enfant, quoi. Et je me souviens très bien avoir dit, ah non, moi, je prendrais pas les pâtes de poulet, je m'en servirais pas, je peux prendre des tampons, des pinceaux, on pouvait faire ça aussi avec des pommes de terre, vous savez, qu'on pouvait un peu graver avec un couteau, là, mais ça, c'était très bien. J'ai refusé, en bloc, de me servir des pâtes de poulet. Figurez-vous que mes parents ont été convoqués, alors, ça a pas été le blâme du siècle, j'ai pas eu un avertissement ni rien, mais cette histoire, elle est remontée aux oreilles de mes parents, puisqu'à la sortie des classes, la maîtresse est allée voir mes parents en disant « c'est pas possible, Marielle n'a pas souhaité réaliser l'activité que j'avais proposée en classe cet après-midi ». Et ma mère qui du coup, moi mon fond précieux, vous savez à peu près d'où il vient, ma mère je crois s'était un peu insurgée en disant bon, franchement c'est quand même dégueulasse, donc est-ce que vraiment ma fille était obligée d'attraper des pattes de poulet pour faire l'activité manuelle que vous avez prévu de faire en classe cet après-midi là. Donc j'ai bénéficié, Dieu merci, du soutien de mes parents, principalement de ma mère parce que c'est elle qui allait me chercher à l'école. Mais je trouve que cette anecdote elle est extrêmement représentative de ce côté un peu, de ce petit fond un peu précieux prout-prout que je cultive donc apparemment depuis l'âge de 3 ans. Et je me souviens très bien regarder tous les élèves de la classe, on devait être, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine, avec leurs petites pattes à tremper dans les différents pots de peinture, et je me souviens très très bien, alors que j'avais 3-4 ans, me dire « mais ils sont complètement timbrés, ils sont fous, personne dans cette classe n'est en train de réaliser ce qu'il est en train de faire. Les gars, réveillez-vous, ouvrez les yeux, vous êtes en train de tremper des pattes de poulet qui ont été coupées, qui ont été récupérées chez un volailler, et vous êtes en train de faire une activité manuelle avec. » Moralité, on est tous remplis de contradictions, et j'ai envie de dire que si c'est un truc complètement involontaire et que vous n'en faites pas un fonds de commerce, il n'y a absolument aucun souci avec ça. Comme d'habitude, je vous invite à me retrouver sur Threads. À chaque fois, je lance une conversation sur les différents épisodes que je propose sur moralité pour qu'on puisse en discuter ensemble. Et écoutez, tout logiquement, je vous invite du coup à venir me raconter quelles sont vos plus grandes contradictions. À nouveau, je vous remercie 1000 fois pour vos écoutes. Je viens de remarquer là à l'instant que l'épisode sur Xavier Dupont-Ligonnès a dépassé, mais vraiment de plusieurs milliers d'écoutes, donc vraiment largement les audiences de tous les autres épisodes. Donc il est officiellement l'épisode de podcast le plus écouté sur moralité, ce que je trouve absolument dingue. Donc merci encore pour toutes vos écoutes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsaitis.
I'm Kayla Tsaitis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.